Dans le parc, en fin de semaine, il y a des frères et des sœurs qui ont été au front. Qui ont été au front dans le parc où il y avait une multitude de personnes qui ont été chantées, célébrées le Seigneur de tout leur cœur, où ils sont attendus à voir la gloire de Dieu descendre, que l'Esprit de Dieu fasse une œuvre. Puis croyez-le que le Seigneur était présent, que le Seigneur y agit. Des fois, on ne voit pas toujours de nos yeux ce qui se passe. Mais l'Éternel combat pour nous, puis l'Éternel est avec nous, puis est au-devant de nous. Ces œuvres-là qu'on a, une, c'est sûr s'il y en a une multitude d'œuvres, mais cette œuvre-là, c'en est une, entre autres, où ce que le Seigneur est au-devant de nous, et où ce que le Seigneur agit pour nous. Il nous envoie dans la moisson, il nous envoie dans le monde pour aller porter sa parole. Puis les chants, les témoignages de la vie des gens qui est ensoleillé, qui est radieux, qui est rempli de la joie, de la paix du Seigneur, mais ça reste un témoignage dans le cœur des gens. Parce qu'ils peuvent pas puiser ça nulle part. Partout autour, il y avait des activités, des gens qui jouaient au soccer. Puis le monde, ça criait, puis ça voulait gagner. Il était comme excité, mais par une victoire qui est vaine, par quelque chose de passager. Tandis que nous autres, on est excités par quelque chose d'éternel qui est avec nous. Eux autres, ils courent après quelque chose qu'ils n'ont pas encore atteint, puis ils vont se battre encore la semaine d'après pour encore essayer d'atteindre ce qu'ils n'ont pas encore atteint, puis ils veulent une couronne corruptible. Tandis que nous autres, on se bat pour quelque chose qu'on possède déjà. C'est une couronne incorruptible, une couronne qui ne peut pas se corrompre, qui ne peut pas se perdre. On ne la perdra pas, notre couronne, parce qu'on est déjà plus que vainqueur avec le Seigneur. Puis merci Seigneur de nous donner la chance d'aller le montrer aux autres qu'on est heureux, on est joyeux, qu'on est rempli de son esprit, puis on peut avoir du bon temps dans sa présence pour le louer puis le célébrer. Alléluia. Puis on va récidiver. Combien est-ce qu'il y en a qui veulent récidiver? Pour ceux qui veulent savoir, ça veut dire on va recommencer qu'est-ce qu'on a fait. Alléluia. On va continuer à avoir encore un suivi ce soir sur l'enseignement de la parole au niveau de la prière. Mais seulement ce soir, le Seigneur veut faire comme une œuvre de stabilité dans notre vie. Combien de personnes qui ont déjà été encouragées à prier, à demander des choses, puis là, ils l'attendaient, puis là, ils ont vu qu'ils commençaient à attendre, puis ils ne voyaient pas encore s'accomplir, puis ils ont commencé à être essoufflés dans leur attente, puis étaient un peu découragés. Parce qu'il y avait encore un petit délai avant de recevoir leur exaucement, ou il y avait encore un délai avant que ça s'accomplisse, puis que leur langue commençait à traîner à terre, puis ils ont commencé à baisser les bras, puis à relâcher. C'est comme un peu qu'on demande l'argent à notre père, papa, on va envoyer ça, puis là notre père, il nous ignore, il nous regarde même pas, on a l'impression qu'il veut pas nous le donner, mais il veut nous le donner, il est déjà en chemin, qu'est-ce qu'il nous a demandé, parce que le Seigneur a promis de nous exaucer dans toutes nos requêtes. Mais des fois, il y a un délai entre le temps où ce qu'on le demande puis le temps qu'on reçoit. Comment est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà vécu ça, qui ont été comme, là, moi je ne demande plus rien, ça donne rien, j'ai même pas l'impression que mes prières sont entendues. Mais le Seigneur veut nous apprendre ce soir à avoir notre gaz égal. Pour qu'on garde la foi, mais une foi continuelle, pour qu'on garde notre joie aussi, même dans les délais. Il veut qu'on arrive à prier avec une perspective à long terme. Parce que vous savez tous, dans l'ère où ce qu'on est rendu aujourd'hui, c'est dans l'ère du presse-bouton. Tu mets 25 cents, mais c'est 30 cents au Tigre en face de chez nous. Tu mets 30 cents dans la machine, tu payes sur le piton puis la canette sort instantanément. Ça a le malheur de pas tomber aussitôt que tu as payé le premier coup. Là, tu commences à brosser la machine parce qu'on veut l'avoir tout de suite, notre canette. Mais on est un peu formé dans cette attitude-là aujourd'hui, veut pas, dans toute notre marche chrétienne. On a l'impression qu'à tous les fois qu'on demande de quoi, puis Dieu veut le faire, Dieu a promis de le faire, Dieu a garanti qu'il nous le fera, c'est promis. Mais des fois, on veut l'avoir tout de suite, puis là, quand on l'a pas tout de suite, on est comme... Mais ça se peut-tu qu'à quelque part, qu'il y ait des raisons pour lesquelles qu'il y ait un petit délai avant que l'accomplissement se fasse? Y a-t-il des passages en parole qui pourraient nous parler de ce sujet-là pour nous donner comme un espoir, malgré qu'on semblerait être dans le désespoir, nous donner un espoir de continuer, puis d'attendre, puis de persévérer? Puis c'est vrai que dans la parole de Dieu, puis même, je ne parlerai pas dans la parole de Dieu, dans nos vies pratiques de tous les jours, qu'on a vu souvent des exaucements de prières qui ont été quasiment instantanés, On a vu d'autres que ça prenait des années avant que ça s'accomplisse. Pour des requêtes que j'ai pu demander. Puis pour une autre personne, ils vont demander les mêmes affaires que moi. Lui, c'est les seuls que moi, c'était long. Lui, il les a tout de suite. Puis les seuls que j'ai eu tout de suite, lui, c'est long. Avant qu'il les obtienne. Malgré les délais, Dieu, il veut que nous regardions à une vision, notre vision, sur l'objectif global de notre vie en premier, parce qu'il ne veut pas qu'on se décourage quand on demande quelque chose qu'on ne l'a pas obtenu immédiatement. C'est quoi l'objectif global? C'est que premièrement, Dieu veut qu'il sache que tu es sauvé, puis que la chose qui compte le plus dans ta vie, c'est que tu fasses partie de son royaume, que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Il veut qu'il sache aujourd'hui que tu es sauvé, ton nom est inscrit dans le livre de vie, puis c'est là-dessus qu'il faut que tu regardes en premier de tout dans ta vie. Puis il veut par la suite nous amener à ce qu'on garde une persévérance jusqu'à la fin dans cette espérance-là qu'on fait partie des élus de Dieu. C'est la première chose qu'on doit rechercher dans notre vie. Continuer à persévérer et à garder espoir parce que je suis sauvé. On ne doit pas mettre nos joies puis notre encouragement à cause qu'on voit des prières s'exaucer instantanément. On ne doit pas mettre nos découragements à cause qu'on voit des prières qui sont plus à long terme. Dieu veut qu'on prenne notre gaz égal puis qu'on bâtisse notre joie et notre espoir puis notre raison de vivre du fait qu'on est sauvé et qu'on a la vie éternelle. C'est là-dessus qu'il veut qu'on regarde. La vision globale, c'est on est des élus, on est sauvés, on s'en va dans la vie éternelle. Puis le point que le Seigneur veut nous montrer là-dessus, c'est dans Hébreux 10, le verset 35 à 39. Il dit, « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » Il ne veut pas qu'on abandonne notre assurance, notre confiance, notre désir de le voir agir, parce qu'il y a une grande récompense pour ceux qui l'attendent, le Seigneur. Au verset 36, « Vous avez besoin de persévérance. » Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, puis ne tardera pas. Ça, c'est le retour de Jésus. Puis mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Le Seigneur veut nous apprendre ce soir à regarder. Tiens ton gaz égal. Tu as besoin de persévérance. Il faut que tu accomplisses la volonté de Dieu et tu persévères à l'accomplir, malgré que tu aies tes prières répondues instantanément ou pas. Ça n'a pas d'importance. Notre espérance n'est pas bâtie sur les exaucements de prières. Notre espérance est bâtie sur le fait qu'on fait partie des élus de Dieu, puis qu'on marche par la foi, puis qu'un jour on va rentrer dans la vie éternelle. Ça, c'est la priorité pour la vie d'un chrétien. Le but premier de la foi, c'est de viser la persévérance, puis cela jusqu'à la fin. Nos sujets de prière, ils doivent viser pour notre soutien spirituel et pour notre croissance, en priorité dans notre vie. Pour que nos prières soient axées, faut que je persévère, faut que je grandisse dans le Seigneur, faut que je continue, il faut que je lâche pas, puis je vais aller encore plus avec le Seigneur, puis je veux grandir, puis là, nos sujets de prière vont dans ce sens-là. C'est la priorité dans laquelle vous devez prier. Il y a plein de promesses dans sa parole pour nous autres, des promesses aussi au niveau de ses armements qui sont disponibles à notre disposition pour combattre. Il y a aussi toutes sortes de dons spirituels qui nous montrent, qui sont là dans sa parole, puis qui nous dit d'aspirer, puis que Dieu veut qu'on recherche ces choses. Ça doit être les priorités dans notre vie. Parce qu'on doit continuer à garder la foi, puis à persévérer, puis à continuer à lutter, puis à combattre, puis à continuer à grandir dans le Seigneur afin de porter encore plus de fruits. C'est notre priorité. Mais les autres requêtes, ils sont secondaires, même si parfois elles semblent urgentes. Si on parle au niveau des biens matériels, notre confort, nos loisirs, tout ce qui va d'accessoires autour, c'est toutes des choses secondaires, puis on ne doit pas mettre notre joie à cause qu'on le reçoit tout de suite ou qu'on ne reçoit pas. On ne doit pas se laisser remplir de la joie ou amener attristé à cause des choses secondaires. Jésus à ses disciples, il a dit à ses disciples, parce qu'ils venaient de revenir de leur mission, ils avaient été envoyés pour aller porter la parole, puis d'imposer les mains aux malades, qu'ils soient guéris, et de chasser des démons. Puis la puissance de Dieu se manifestait dans leur vie. Ils sont revenus joyeux en disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Ils marchaient dans la victoire, puis il y avait de quoi se réjouir, mais le Seigneur leur a dit, « Mettez pas votre joie là-dedans. Réjouissez-vous plutôt que votre nom est inscrit dans les cieux. » C'est là qu'il faut regarder. Faut pas regarder notre vision aux choses qui se passent présentement. Il faut regarder dans la vision globale. Je suis sauvé. Je m'en vais dans la vie éternelle. Mon nom est inscrit dans les cieux. Ma joie est là. Que je sois exaucé, pas exaucé, dans victoire, dans défaite, des problèmes où j'ai surmonté mes problèmes, c'est pas ça qui doit être ma joie. Parce que si je mets ma joie là-dedans, je vais être de la misère à tiendre mon gaz égal. Il va arriver des temps plus durs, des délais dans mes exaucements, puis des problèmes qui s'accumulent devant moi, puis que là, je vais commencer à ralentir parce que je regarde à ça. Faut pas oublier que Dieu a quand même promis de répondre à toutes nos requêtes. Même si je dis qu'il y a des requêtes primaires, puis il y a des requêtes secondaires, mais Dieu a quand même promis de répondre à tous nos besoins. Il dit, tout ce que vous demanderez par la foi, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Il y a plein de promesses dans toute sa parole, mais il veut pas qu'on base notre élan spirituel par le fait qu'on reçoit instantanément ou par le fait qu'on reçoit avec un délai. Mais Dieu veut pas que nos attentes pressantes pour les besoins secondaires nous causent un découragement quand nous ne voyons pas un exaucement instantané. C'est comme si je me répète. Dieu veut pas qu'à cause que je suis bien empressé à voir la chose s'accomplir, j'ai bien hâte d'avoir cette chose-là, puis là, oups, ça arrive pas tout de suite. Oups, il y a des délais, puis que là, je commence à être découragé à cause de ça. Parfois, même l'attente est un peu à long terme. Ça peut vraiment occasionner un découragement. Quand que je pense, mettons, au niveau d'une maladie, quelqu'un qui a une grosse maladie, puis il traîne ça, puis il croit que Dieu va le guérir, il croit que présenter sa requête avec foi, elle croit que Dieu va répondre, mais qu'il y a un délai. Mais quand ça fait 5 ans qu'elle traîne ça, sa foi est mise à l'épreuve. Puis là, elle aura tendance à commencer à relâcher. Pourtant, il faut qu'elle continue à regarder au Seigneur. Parce que ça peut arriver, oups, le Seigneur, il donne sa guérison lors d'une soirée spéciale avec un invité qui prie pour elle, puis taf, elle la reçoit. Mais en réalité, elle l'aurait reçu quand elle l'a demandé, mais le délai avant de recevoir, il y a un temps. Puis des fois, le temps est long. Puis c'est vrai qu'il peut y avoir un découragement ou un relâchement, mais il ne faut pas se laisser aller. Là, on va voir quelques raisons pour lesquelles il peut y en avoir des relâchements. Puis ça, une fois qu'on comprend ces principes-là, ça nous aide à passer à travers. Le premier point, souvent, il y a des délais ou des retards dans nos exaucements parce que notre foi est mise à l'épreuve. Dans 1 Pierre, au chapitre 1, le verset 5, à partir du verset 5, ça nous dit, « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. » C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que de l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu et en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Seigneur, il garantit ici qu'on obtiendra le salut de nos âmes pour le prix de notre foi. Puis il dit, vous êtes gardés, au verset 5, il dit, vous êtes gardés par la foi dans la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu, on est gardés dans la foi pour le salut. Ça veut dire qu'un jour, on va arriver au salut. Mais il dit, en attendant, il faut, puis ça peut arriver, je ne dis pas que ça va arriver à tout le monde, mais ça arrive souvent qu'on peut être attristé pour un peu de temps par diverses épreuves. Puis Ces épreuves-là sont nécessaires dans la croissance du salut, sont nécessaires même pour éprouver notre foi. Dans le verset 7, ça nous dit que l'épreuve de notre foi, c'est plus précieux que de l'or qui périt. Parce que ça a un résultat extraordinaire. Ça va produire de la gloire et de l'honneur pour celui qui a vécu cette épreuve-là puis qui a gardé la foi. Je reviens à l'exemple, d'une maladie. La personne, ça fait 5 ans qu'elle lutte, mais elle continue à combattre et à garder la foi. Puis elle se dit, c'est pas grave, le Seigneur, il m'a entendu, le Seigneur va répondre, le Seigneur va agir comme tu l'as promis, ça s'en vient, je vais le voir s'accomplir, puis là, on continue à combattre, puis on garde la foi. Il peut l'avoir, sa guérison, présentement, au bout de X 7 ans, comme ça peut arriver juste que ce soit à son retour qu'il soit complètement guéri. Mais il a gardé la foi, puis l'épreuve de sa foi, c'était qu'elle passe à travers de cette situation-là en gardant la foi. Puis l'épreuve qu'elle vivait là, c'était dans le but de purifier sa foi, pour qu'elle ait une foi de plus en plus pure, avoir un cœur de plus en plus pur, attaché au Seigneur, puis toujours en se reposant dans ses promesses, jusqu'à temps que ça arrive, jusqu'à temps que le Seigneur vienne la chercher. Puis cette personne-là, ça persévère. La Bible a dit, pour les légères afflictions du moment présent, ça produit pour nous au-delà de toute mesure. Ça se mesure pas le poids éternel de gloire qu'on va avoir à l'autre bord. Là, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi qu'à un délai? Mais dans certains cas, il y a des personnes que Dieu permet que ça arrive parce que Dieu sert de ça pour éprouver sa foi et purifier sa foi afin qu'elle se ramasse des fruits, des récompenses éternelles en gardant la foi en passant à travers de ces épreuves qu'elle peut vivre. Une autre personne peut avoir du cancer, elle guérit instantanément en le demandant. Puis même en le demandant pour la première fois, il y en a d'autres que le Seigneur peut permettre qu'il y ait un délai peut-être de 5 ans, 10 ans avant que ça arrive. Mais la personne, si elle garde la foi, elle se ramasse un trésor de gloire. Il dit, l'épreuve de votre foi est plus précieuse que de l'or périssable, mais est éprouvée par le feu. Elle a pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Ça vient de qui, cette louange, cette gloire-là et cet honneur? C'est Jésus lui-même qui va arriver. Viens, bon et fidèle serviteur. T'es été fidèle en peu de choses. Rentre dans la joie de ton maître. Pensez-vous que ce ne sera pas un trip glorieux d'arriver en présence du Seigneur, puis qu'il est là, puis il nous tend la main, puis il nous dit, bon et fidèle serviteur, on était dans la souffrance, puis dans les problèmes, une partie de notre vie, d'un combat, d'un lutte, à garder la foi, à s'accrocher par la foi, à continuer. Fidèle serviteur, puis il va nous élever, puis il va nous faire rentrer dans son royaume, ça, en présence de tous les millions d'anges et tous les autres ressuscités qui vont être là. Ça va être glorieux, il va y avoir des chants de gloire, avec des trompettes retentissantes, des instruments de musique. Ça va être tout un party, mais qu'on arrive l'autre bord, quand que le Seigneur va venir nous chercher. Faut pas penser que ça va être quelque chose de plate et de monotone, qui va être juste j'ai rien contre les pianos, mais juste comme une petite musique d'un piano qui fait un petit bruit de fond, puis pas un son, ça c'est bien tranquille, ben, t'entends même pas rien dans la place, même pas un criquet dans le ciel. Puis que là, on rentre, puis il n'y a même pas aucune réception, aucun appel. Non, ça va être complètement le contraire, ça va être le party. Le party dans le ciel, il est commencé même à partir du moment où on a donné notre vie au Seigneur. Il dit, il y a plus de joie devant les anges de Dieu quand qu'un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Quand qu'un pécheur se repent, il y a de la joie devant les anges de Dieu. C'est qui est en face des anges de Dieu? C'est Dieu lui-même qui est dans la joie. Dieu est dans le party parce qu'il est content qu'une autre personne qui s'est convertie. Puis le party commençait là, mais le party va continuer mais qu'on arrive l'autre bord. Puis le Seigneur va être dans la joie. Rentre dans la joie de ton maître. Le Seigneur va... Mais qu'on arrive l'autre bord, là, vous pouvez pas vous imaginer comment on va être là. On n'aura rien d'autre à dire. On va sourire fendu jusqu'ici. On va flotter. On fait juste vivre des petits moments de réjouissance, puis on est déjà, on flotte un peu, puis c'est rien qu'est-ce qu'on vit, ça. Quand il nous parle qu'on va avoir notre résultat de nos souffrances, va avoir pour résultat la louange, la gloire, puis de l'honneur, puis pas juste pour 2 minutes. C'est pour l'éternité, parce que c'est des couronnes incorruptibles, puis c'est des couronnes éternelles. Ça fait partie des récompenses qu'on ne se fera pas voler. Parce que Jésus dit, ramassez-vous des trésors dans le ciel, où ce que les voleurs ne percent ni ne dérobent. Personne ne peut venir passer notre coffre de notre trésor céleste et venir voler ce qu'il y a dedans. Parce que c'est Jésus qui va les donner. Clic! Puis il n'y a personne qui va nous enlever notre joie à ce moment-là. C'est sûr que pour le moment présent, quand on passe à travers la situation, on trouve qu'on arrache. Puis si on regarde à notre situation, on peut se décourager puis tomber deux bras à terre, puis dire qu'on relâche. Mais pour s'encourager, pour s'appuyer avec la vision globale, un jour je vais être avec le Seigneur, puis je vais avoir mes récompenses. J'attends encore que le Seigneur le fasse, parce qu'il a promis de le faire. Il y a un délai, mais je l'attends encore. À tous les fois qu'il y a une chance, je continue à le réclamer, parce que ça fait partie de l'héritage qu'on peut réclamer, ça fait partie des promesses qu'on peut demander d'être guéri. Mais qu'est-ce qui peut nous encourager aussi? C'est qu'on n'est pas tout seul à vivre ces choses-là. Il y a un verset qui dit, dans 1 Pierre 5, les versets 8 et 9, il dit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Et résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Les choses qu'on vit aujourd'hui, vous n'êtes pas seul à les vivre. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre, il y en a encore des milliers de chrétiens qui vivent exactement la même chose que vous passez à travers aujourd'hui. Que ce soit un découragement, une dépression, une maladie, que ce soit la pauvreté physique, que ce soit même un ralentissement spirituel, il y en a des milliers de frères qui sont éprouvés de la même façon dans le monde. Il faut s'encourager qu'on n'est pas seul à vivre les choses. Il dit, dans l'autre passage qu'on a vu tout à l'heure, il le faut qu'on soit attristé par diverses épreuves parce que ça purifie notre foi. On va tous en vivre, mais à des portions différentes. Mais gardons le cap, gardons notre gaz égal dans ces situations-là. Puis encourageons-nous les uns les autres à passer à travers. Encourageons-nous à dire, ta guérison s'en vient parce que le Seigneur l'a promis. Que ce soit tout de suite ou que ce soit un petit peu plus tard, tu vas l'avoir. Attends. Persévère. Il peut y avoir d'autres empêchements aussi à cause du niveau spirituel pour nos exaucements. On va regarder un passage dans Daniel. Je vais faire vite parce que le temps avance. La troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. C'est dans Daniel au chapitre 10, les versets 1 à 14. Il dit, cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole, puis eut l'intelligence de la vision. Daniel, il venait d'avoir une vision des choses terribles qui devaient arriver. Puis il dit, en ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat, puis n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point, il ne s'est pas donné d'onction d'huile, jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hidékel. Je levai les yeux, je regardais, voici qu'il y avait un homme vêtu de lin, il y avait un ange qui apparut, et ayant sur ses reins une ceinture d'or d'uphase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendais le son de ses paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha, et secoua mes genoux et ma main, et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout et tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour que tu as à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple et dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Là, laissez-moi vous dire, Daniel avait à cœur de comprendre ce qu'il avait eu comme vision, puis il s'était mis à prier, puis à même s'imposer un jeûne, ne pas manger de mets délicats, ça veut dire qu'il n'a pas mangé rien, il a sûrement mangé des sandwichs au beurre de pinot pendant 21 jours de temps. Son désir était de s'humilier devant Dieu et d'avoir une réponse du Seigneur. Mais ça a duré 3 semaines, son attente, avant qu'il reçoive la réponse. L'ange vient et dit, « T'es un bien-aimé, t'es écouté de la part du Seigneur. » Puis le Seigneur m'a envoyé pour venir te dire ta réponse. Depuis le premier jour que tu as tenu ta requête, t'es entendu, puis j'ai été envoyé. Sauf qu'il est arrivé 21 jours après. Comment que ça se fait qu'il y a un délai entre le fait qu'il ait déjà été exaucé puis le délai avant, puis qu'il y a un délai de 21 jours avant qu'il y ait son apparition et sa réponse? Parce que sa réponse a eu un obstacle, un empêchement dans le monde spirituel. Des fois, il y a des délais qui nous est imposés dans nos prières. Puis ce délai-là est dû à une opposition dans le monde spirituel. Mais Daniel s'est pas relâché, rendu au 4e jour, hey, ça fait déjà 4 jours que je mange des beurrés de beurre de pinot. J'ai hâte, là, je commence cette année, rendu au bout de 10 jours, au bout de 15 jours. Il aurait pu se décourager et dire, je le saurais, mais que le Seigneur, ça y tente de me le dire. Non, il a continué, puis il a continué, puis il a continué. Il sait que quand il demande de quoi, il est répondu. Puis il a compris aussi dans sa réponse que le délai était dû, que l'ange Gabriel avait été envoyé de la part de Dieu pour lui donner sa révélation qu'il avait besoin. Puis le roi de Perse, qui est une domination spirituelle sur le royaume où ce qui était, s'est opposé, puis il a mis une barrière entre l'ange pour empêcher l'ange de venir parler à Daniel. Là, ça nous dit que Michel et ses anges sont venus puis ont combattu contre ces anges-là. Puis là, lui, il est resté avec eux autres pour combattre. Puis après ça, il s'est envenu puis il est venu donner sa réponse. Voyez-vous, des fois, on dit, « Ouais, Seigneur, tu m'écoutes-tu? » On ne devrait même pas dire ça ou penser ça. Dieu nous écoute tout le temps. En autant que notre vie, on attire le regard de Dieu sur la faveur de Dieu sur nous autres. Mais Dieu, il dit qu'il est prêt à répondre. Mais des fois, il y a des délais qui sont dus aux oppositions spirituelles. Il faut comprendre ça. Puis continuer à le demander, puis à l'attendre, puis à l'attendre, puis je l'attends, puis je veux, puis je vais l'avoir. Puis Seigneur, puis je te le demande encore, puis je continue, puis je l'attends, puis elle va s'accomplir. Pourquoi que ça va s'accomplir? Parce qu'on a continué à le réclamer. Peut-être que s'il aurait dit, « Ah ben, je lâche tout, j'arrête de prier, peut-être que l'ange aurait reviré de bord, puis ne serait même pas venu. » Il dit, « Qu'est-ce que ça donne de combattre? Lui-même ne le veut même pas. » Moi, je pense qu'à quelque part, il y a peut-être une raison pour laquelle les anges ont gagné. C'est peut-être aussi en réponse de son acharnement, puis sa continuité, puis sa persévérance, que l'ange a pu se rendre jusqu'au bout. Un autre point qu'il faut comprendre, c'est que Dieu il a un plan dans nos vies, même au sujet de nos problèmes. 2 Corinthiens 6:2. Car il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Voici maintenant le temps favorable, et voici maintenant le jour du salut. Ça, c'est 2 Corinthiens 6:2. Il dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. » Dieu, il y a un temps favorable pour nous exaucer. On fait une prière aujourd'hui pour demander une chose, mais il y a un temps qui est favorable pour le recevoir. Dieu, quand il fait de quoi, il veut que ça serve à de quoi? Il veut que ça serve à sa gloire. Il dit... Dans Jean 11,4, il dit, « Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Dieu veut glorifier son nom. Des fois, il permet qu'on ne l'obtienne pas tout de suite, notre guérison, on persévère dans la foi, puis là, il arrive une situation où on l'obtient, puis que là, c'est à le moment favorable qu'on l'obtienne, parce que ça l'a donné un impact, premièrement pour sa gloire, puis aussi pour l'édification des disciples. Le Seigneur peut se servir d'une croisade d'évangélisation, de permettre que tu sois guéri là devant des dizaines et des centaines de personnes. C'est peut-être le temps favorable pour Dieu, peut-être pas le temps favorable pour moi, mais le temps favorable de Dieu d'accomplir cette chose-là dans ce moment-là. Dieu n'a pas perdu le contrôle dans nos vies. Il tient le contrôle. Il dit, garde ton gaz égal. Continue à t'attendre à ce que je le fasse. Puis il va le faire. Puis il va le faire au moment où il va attirer le plus de gloire de tout ça. Mais comment réagir avec les prières attendues puis pas encore manifestées? Mais premièrement, il faut résister au diable lorsqu'il vient nous mettre des doutes. Il faut pas écouter ces doutes-là de pensant, « Oh, j'ai peut-être pas été entendu. Oh, peut-être que je suis pas digne de recevoir quoi que ce soit. Oh, peut-être que si, peut-être que ça. » Non, on résiste aux doutes. Je sais que Dieu m'a entendu, puis je sais que ça s'en vient, peu importe le délai. On doit continuer à confesser qu'elles ont été entendues puis qu'elles sont en chemin, les exaucements. Il faut continuer à le confesser qu'on l'attend puis ça s'en vient. Puis vous pouvez rire, mon Jésus revient bientôt. On peut le dire avec haut et fort que Jésus revient bientôt parce qu'il va revenir, même si tout le monde rit. C'est la même chose pour nos exaucements. Même si tout le monde te dit, voyons, qu'est-ce que ça te donne? Ça fait 10 ans que tu pries pour ça, tu ne l'as pas encore eu. Je crois que mon Dieu m'a entendu puis ça s'en vient. On continue à le confesser. Il faut attendre, oublier d'ardeur et de persévérer dans cette attente-là, en persévérant, en continuant à prier pour, en l'attendant. Faut pas se laisser décourager. Notre foi est mise à l'épreuve. Mais faut montrer que notre épreuve produit une foi encore meilleure, une foi plus résistante, une foi plus persévérante, une foi qu'il faut faire que je vais l'obtenir. Alléluia. Il faut garder notre vision sur l'objectif global de notre vie. Je suis sauvé. Puis je garde la joie de mon salut, même s'il y a un délai. Dieu nous encourage à ne point désespérer. Dans Hébreux 6, 12, il dit, « En sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Il dit, « En sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Il y en a un paquet qui ont hérité des promesses suite à leur foi et leur persévérance. Puis il dit, il faut imiter ces gens-là. Le Seigneur va le faire. Y a-t-il des amen à quelque part? Y a-t-il des personnes qui peuvent dire qu'ils ont déjà vécu des choses semblables, que leur vie, ça n'a pas de l'air à passer tout de suite? Tu continues, puis ça s'en vient, puis tu confesses que ça s'en vient, puis tu l'espères encore, puis tu continues à prier pour, puis tu chasses les doutes, puis tu l'attends parce que c'est une promesse qui est pour toi. Merci Seigneur de vouloir nous affirmer par sa parole.